un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Avec Karine Leloët. Le remembrement agricole en France, on en connaît souvent les grandes lignes. À partir des années 50, des petits champs sont regroupés pour former des parcelles plus grandes où peuvent facilement passer les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. On sacrifie au passage les haies, les arbres, les chemins. En gros, tout obstacle qui pourrait se trouver sur la route de ces gros engins, vecteurs du progrès agricole en marche. Ceux qui s'intéressent au sujet savent qu'à l'époque, ce remembrement, fortement encouragé par l'État, suscite des résistances dans les campagnes. Certains paysans se sentant lésés par la nouvelle répartition des terres. Mais ce qui est peu connu, en revanche, c'est l'émotion immense engendrée par ces grands travaux et les gestes désespérés qu'ils entraînent. Paysans couchés devant des bulldozers, grève de la faim, suicide parfois. Et puis ce fossé qui se creuse entre les pros et les anti-remembrements et qui persiste encore aujourd'hui dans certains villages où des familles refusent toujours de s'adresser la parole. Ce qu'on ignore enfin totalement, c'est l'impact de ce grand remembrement sur les plus jeunes. Les filles et les garçons témoignent de la zizanie ambiante et du bouleversement du paysage autour d'eux. C'est ce point de vue qu'a choisi de raconter Inès Leroux à travers le témoignage de deux enfants de l'époque.
C'est en enquêtant sur l'agriculture intensive, au cours de mon journal breton, diffusé dans Les Pieds sur Terre, que j'ai découvert le remembrement. Le remembrement, c'est un grand remodelage des terres agricoles organisé par l'État après la Seconde Guerre mondiale pour installer l'agriculture intensive dans les campagnes françaises. J'ai voulu en savoir plus. Je me suis mise à fouiller dans les archives départementales et à tendre mon micro à celles et à ceux qui l'avaient vécu. Ils me parlent des injustices et des spoliations causées par la destruction du bocage et par l'échange généralisé des terres. Mais jamais de ce qu'ils ont ressenti face au bouleversement de leur environnement. Un jour, je rencontre une personne qui a vécu le remembrement en tant qu'enfant. Son approche est tout autre, dans un rapport plus organique au paysage. Ça m'a donné envie de raconter le remembrement à hauteur d'enfant.
Je m'appelle Jacqueline Goff, je suis née en 1953. Dans un petit village, le Drennec, qui est situé à 20 km de Brest. Mon père était boulanger, ma mère était femme au foyer. J'étais une enfant très solitaire, j'avais pas d'amis, et mon passe-temps, moi, c'était d'aller me promener dans la campagne. C'était un labyrinthe de petits chemins, puis on était à l'abri, on allait chercher des mûres, des châtaignes, voilà, c'était un terrain de jeu magnifique. Il y avait des bois, il y avait des clairières, et puis c'était des champs entourés de talus avec des arbres. Les talus, c'est des monticules de terre qui partagent les terrains. Ce sont des constructions humaines qui ont été faites pour protéger les champs de l'érosion, et puis aussi pour permettre à la faune, à la flore aussi, se développer.
Parce que les talus, sur ces monticules de terre, il y a des arbres.
Oui, c'est ça.
C'est des haies.
Oui, c'est ça. Ça servait aussi de bois de chauffage. Mes grands-parents, ils se chauffaient comme ça, ils faisaient des fagots avec des petites branches pour allumer le feu dans la cheminée. Puis après, on détaillait les plus grosses branches et puis on abattait un ou deux arbres pour chauffer l'hiver. Oui, ils vivaient complètement, presque en autonomie. C'était juste une petite ferme, des vaches, des cochons, des poules. Parce que mon grand-père, il travaillait encore avec un cheval, il n'avait pas de tracteur. Oui, je voyais bien que ça lui faisait plaisir, il avait une belle complicité avec son cheval. C'était un métier très dur, mais je sens qu'il avait beaucoup de plaisir à faire ce qu'il faisait. Puis c'était une campagne, malheureusement. Ça devait être dans les années 60-62. Je pense que c'est 62 plutôt. Donc je devais avoir 9 ans à peu près. Un jour, j'ai assisté à... Je revois encore une... Je revois l'apparition des bulldozers sur la colline en face de chez moi. Qui saccagent. qui détruisent tout, les arbres, les talus. Ils empilent ça comme si tout ça, ça n'avait plus d'importance. Ouais, c'était vraiment une image qui m'a bouleversée. Je ne pouvais en parler à personne. Je ne comprenais pas pourquoi. Quand je n'avais même pas idée de demander, j'assistais à ça impuissante. C'était ouais, un remembrement, un démembrement. C'était le chaos, c'était un saccage qui m'a beaucoup marqué, qui m'a. J'en ai encore l'émotion de voir tout ça. Il n'y avait plus rien. Je vois encore ces tas d'arbres qui s'empilaient. Ouais. Et j'ai cette image, l'image qu'on voit des vaches folles, qu'on empile aussi quand il y a eu l'histoire. Ça m'a fait exactement le même effet. Je suis encore émue après toutes ces années quand j'en parle. Et donc c'était des choses que les hommes avant nous avaient fait patiemment, qu'on a détruit avec tellement de facilité, avec tellement vite. Oui, je suis restée avec ça, et c'est peut-être pour ça que c'est si douloureux, c'est parce que justement, à cette époque-là, j'en ai jamais parlé à personne. Sur moi, ça a eu énormément d'impact, ça a mis de la rage en moi. Ouais. Une révolte terrible. Dès qu'on détruit, voilà, le paysage, c'est une blessure qui s'ouvre, il suffit que je vois un plastique qui vole, un panneau publicitaire, tout ce qui peut détruire le paysage, ça me heurte profondément. Voilà, et un jour, je m'en vais à Lannion, je vois un panneau publicitaire, un grand panneau de 4 mètres sur 4. Et derrière ce panneau-là, c'était encore un bosquet d'arbres très joli. Et cet immense panneau rouge-là blotte. Je suis rentrée dans ma voiture avec une révolte en moi. Je me dis non, ça va pas. Là, maintenant, le remembrement, je n'ai plus rien faire, mais pour ce panneau-là, oui, je vais faire. Je vais le faire dégager plus vite. Mais j'avais besoin de décharger toute la violence que ce remembrement l'avait fait sur moi. Alors, j'ai commencé à écrire dans le journal local Le Trégor, et puis aussi Ouest-France. Bon, ça fait un petit peu un flop, mais il y a un monsieur qui m'a téléphoné, qui m'a dit, voilà, j'ai lu votre petit message sur le Trégor et j'ai été très sensible à ce que vous avez écrit. Alors, moi, je pensais, voilà, aller la nuit, scier le panneau, le mettre à terre. Et alors, le monsieur, il me dit, écoutez, je vous arrête tout de suite parce que donc je travaille à la DDE.
La DDE, c'est la direction
départementale, voilà, qui s'occupe des autoroutes et qui, voilà, des routes départementales. Alors, il me dit, écoutez, je vous déconseille fermement d'aller faire quoi que ce soit sur le panneau parce que ça va se retourner contre vous. Et donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vous explique exactement les panneaux publicitaires qui sont en infraction et pourquoi, et je vous donnerai les articles de loi. Bref, il m'a conseillé et donc j'ai pris la route entre Lannion et Plestin-les-Grèves. Et là, j'ai recensé, il y avait à peu près, je crois que c'est 130 panneaux en infraction. Je les ai tous photographiés. Je les ai envoyés à chaque maire, j'ai envoyé au préfet. Et alors, je relançais. Ça a pris des années et j'ai eu énormément de résultats. 150 panneaux ont été enlevés à peu près. Ouais.
Le panneau blotte, il a été enlevé ?
Oui, il a été enlevé. Et alors, la bouffée de bonheur... C'était enfin, je prenais ma revanche. Ouais. Maintenant, je continue. Voilà, je suis contente parce que à chaque panneau qui est enlevé, je me dis ah celui-là, il y avait ça, il est plus là. Deux fois, je passais et la personne était en train d'enlever le panneau et je me disais c'est grâce à moi qu'il enlève ce panneau. Mais ça me faisait plaisir, j'ai passé, oui, je faisais plus que ça, et je passais des journées entières, et à chaque fois, je me dis, ouais, c'était tout ça à cause du remembrement, voilà, ouais.
Eh bien, tous les chants, c'était comme, chacun, c'était comme un vers du poème.
Oui, comme un jardin.
Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, puisqu'on a abattu des talus, il y a 3, 4, 5 champs dans le même champ. Allez chercher leur nom maintenant parmi tout ça.
Ce sont des enfants perdus, un
oui,
peu.
Oui, ma foi. Et il y avait des jolis noms aussi.
Un cri, un chant venu de la terre. Pour savoir l'alphabet snobé par l'instruction. Une ode à la vie, un hymne à la terre. Pour séduire de nos enfants la mémoire de nos grands-pères.
J'ai pu dénicher quelques chansons évoquant le remembrement, comme ce morceau de rap du groupe Unité Mao Mao, en hommage à la poétesse et paysanne Angela Duval, ou une chanson du groupe Tradart, que vous entendrez à la fin de l'émission. Mais aucun livre d'histoire critique ou de sociologie n'a été consacré au remembrement. Pourtant, dans les campagnes, on s'en souvient comme d'un épisode traumatique. Car les échanges de parcelles, la destruction des haies, ont été menés de façon autoritaire par l'État, faisant fi de l'attachement des paysans à leurs terres et à leurs habitudes. Ils sont nombreux à s'être opposés, parfois violemment, aux travaux de réaménagement. Je rencontre Pierre Parvis à Paris. Né en 1954, il a grandi dans le Limousin, dans un village de Haute-Vienne.
Mes parents étaient agriculteurs, ils avaient une propriété qui faisait 10-12 hectares. Et les terres étaient occupées par des légumes traditionnels, la patate, les petits pois, les haricots, les navets, les oignons, les carottes, etc., etc. Mon village comprenait donc 7 familles de paysans. Et les tracteurs sont arrivés au début des années 60. Mes parents ont bossé avec les vaches peut-être jusqu'en 64, c'était des vaches qui tractaient. Donc la vache, c'était vraiment le personnage principal, celui qu'il fallait bien traiter, choyer. On les caressait, on les peignait, on les brossait. Quand l'une était malade, eh bien le paysan, je me souviens très bien, mon père, avoir roupillé dans les étables, dans les granges, si une vache était souffrante. Quand j'étais gamin, il fallait garder les vaches. Il n'y avait pas de clôture électrique, automatique, donc on partait le matin avec le casse-croûte de la journée et on allait partager la journée avec les vaches. Là, je vous parle du samedi, du dimanche, du jeudi, puisqu'à l'époque, c'était le jeudi où on n'allait pas à l'école. Et le copain d'à côté était pas loin, donc on retrouvait les autres gosses du village, on passait la journée ensemble, c'était vraiment le paradis. Alors, le remembrement arrive. On entendait des conversations à la maison qui étaient sur un autre ton. Et puis, quand on est gosse, on pige pas forcément ce qui se passe, on n'intellectualise pas. Et assez brutalement, je me souviens, ma mère me dit « il faut plus aller jouer chez les voisins ». Et on entend des conversations le soir au souper où le voisin chez qui vous jouiez la veille eh bien, était désigné comme un ennemi. Et on entend « attention, en traversant la rue, parce qu'avec son tracteur, il pourrait faire exprès de te renverser ». Là, vous pigez pas du tout. Et puis, on ne va plus chez le voisin, puis on va plus l'aider. Et quand on a un problème, eh bien, on fait plus appel au voisin. Et vous comprenez pas. Alors, mon père était partie prenante dans l'organisation du remembrement. Il y était favorable. Et moi, gamin, j'adhère au discours de mon père. Donc je suis favorable à ce mouvement qui va amener le bonheur à la campagne. Mon père donc était héritier d'une ferme de 10-12 hectares, qui était là depuis plusieurs générations. Et il avait reçu de la part de son père à lui la caisse d'assurance mutuelle agricole. Donc il avait ces deux fonctions. Ce qui avait pour conséquence qu'il circulait beaucoup chez les uns, chez les autres, et il connaissait à peu près tout le monde. Il était membre de la commission de remembrement. Alors la commission de remembrement, elle était habilement constituée, c'est-à-dire la préfecture intégrait dans ces commissions des gens, des paysans du cru. Ça permettait de légitimer. Les paysans membres de la commission de remembrement étaient perçus par les autres comme des traîtres, comme ceux qui les abandonnaient. Arrivent les bulldozers. Et puis ils commencent à foutre les arbres par terre, et ils foutent les arbres par terre, et ils foutent les arbres par terre, et ils démolissent les haies. Et là où il y a une butte, ça devient plat. Et certains paysans se couchent, s'allongent devant le bulldozer au petit matin. Et ma foi, ça crée des disputes, ça crée de la violence. Mais les actes les plus violents, ils sont à l'intérieur même des familles. Les actes violents, c'est-à-dire des tentatives de suicide.
Ça, vous en avez connu ?
Oui, j'ai connu des tentatives de suicide dans mon village et également de l'usage de fusils de chasse, de carabines envers le voisin.
Votre père a reçu des menaces ?
Ah, on avait des menaces, oui, c'était assez quotidien. On avait, vous savez, à cette époque-là, les chouettes étaient, l'oiseau, hein, étaient considérés comme malfaisants et un représentant diabolique. Donc, il n'était pas rare qu'on trouvait une chouette clouée sur la porte de la grange ou sur la porte de la maison. Et c'est arrivé quelquefois qu'on reçoive des cercueils en carton ou en bois cloués sur la porte. C'est pas arrivé très souvent, mais enfin, c'était l'ambiance, hein, c'était assez violent. Il y avait un autre truc aussi. On trouvait régulièrement dans les rangées de haricots ou de pommes de terre des œufs de poule, parce que l'œuf de poule avait comme pouvoir de détourner l'action diabolique. Et mon père était perçu comme diabolique puisqu'il amenait la destruction des terres, l'arrivée des bulldozers, etc., etc. Et quand il a commencé à se disputer avec les voisins, j'ai identifié les voisins comme des gens néfastes. Alors je me suis érigé en vengeur, en justicier, j'avais une dizaine d'années, et j'ai fait du sabotage dans les fermes des voisins, je leur ai cassé leur matériel, etc., etc. J'avais un truc qui me faisait bien rire à l'époque, il y avait une carrière de granit à 2 ou 3 kilomètres de chez nous. J'allais dans cette carrière de granit, je piquais des barres d'acier qui servent à armer le béton. Je découpais ces barres d'acier d'une 50aine de centimètres et j'allais les planter dans les champs de blé ou dans les prairies. Et ben, vous imaginez ce que ça peut donner. Quand le paysan voisin passait avec sa machine, et ben, ça lui cassait sa machine, ça cassait la lame. Et moi, j'étais planqué à côté et je rigolais bien. À l'époque, il y avait des bosquets partout. Les champs, les prairies étaient cernés de bosquets, donc c'était facile de se planquer. Et je pensais en cela venger mon père. Et puis, il y avait même une chose dont je ne suis absolument pas fier aujourd'hui. Il y a un voisin qui était vraiment dans un état de détresse à la suite de la perte de ses terres. Il avait annoncé qu'il allait se pendre. Et il a hurlé qu'il allait se pendre. Il a pris une corde, il est monté au sommet de sa grange. Et il a fallu intervention des forces de l'ordre pour le sauver. Et il a eu des problèmes de santé par la suite, assez sérieux, en psychiatrie. Et nous, les gamins du village, on avait constitué une scène théâtrale pour exorciser ça. On avait confectionné un mannequin en paille, en bois, grandeur nature, 1m80, avec un visage, des gants tout à fait représentatifs de la paysannerie, et on l'avait pendu officiellement sur la place du village. Il se trouve que le groupe de gamins était constitué de gosses ouvertement favorables, comme moi avec mon père, ou indifférent par rapport au remembrement. Il y avait eu un accident dans une grange proche de chez mes parents et je me souviens, on a entendu des cris, des hurlements et on a vu un homme sortir de sa grange affolé, courir chez lui, et c'était quand même assez loin, à plusieurs centaines de mètres, pour téléphoner au secours, car son père venait de faire une chute grave depuis le haut de la grange, depuis le sommet des meules de foin. Et Chez mes parents, il y avait le téléphone. Il aurait pu venir téléphoner chez mes parents. C'était à moins de 50 mètres de la grange où son père est tombé. Mais non, hein. Vraisemblablement, en raison du conflit et de la violence, de la colère qui régnait, il n'est pas venu téléphoner chez mes parents. On entendait la personne crier, appeler à l'aide et on n'est pas allé voir dans la grange ce qui se passait. On n'est pas allé porter aide. Ça, c'est une scène affreuse qui illustre bien le changement qui s'opérait en très peu de temps parce que quelques années avant, on faisait les batteuses ensemble avec ces gens-là à l'automne. Alors, voilà que telle année, on fait la batteuse ensemble avec le voisin et deux, trois ans après, il fait une chute grave et on va pas l'aider. Ça illustre bien le revirement, ce qui s'est produit. Des faits comme ça, j'en ai d'autres. Quand le remembrement s'est effectué, si on avait sur sa propre parcelle un arbre fruitier, eh bien, afin que le voisin n'en bénéficie pas, on abattait l'arbre avant que le voisin n'en devienne propriétaire. Je me souviens de 5 châtaigniers greffés, immenses, qui produisaient considérablement et dont la récolte était vendue au marché de la ville. Lorsque mon père a su que la parcelle sur laquelle étaient les châtaigniers allait être attribuée au voisin, on est allé abattre les 5 châtaigniers. Je me souviens, j'y étais. J'ai contribué à dépecer les châtaigniers pour en récolter l'écorce. Ce remembrement, dans le village, ça a mis une telle zizanie que les acteurs de cette époque-là, qui avaient 30, 40 ou peut-être 50 ans pour les plus âgés dans les années 60, ils ne se sont plus jamais adressés la parole jusqu'à leur mort. Donc c'était profond. La blessure était profonde. Quand j'étais gamin, remembrement, ça ne voulait rien dire pour moi. J'habitais sur un territoire immense, sur lequel j'étais le roi absolu et sans partage. Et puis petit à petit, quand j'ai vu... ce qu'étaient devenues les terres, les prairies qui étaient dévastées, qui étaient défoncées, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus de haies, il y avait des rongeurs partout, puisqu'il n'y avait plus de prédateurs, il n'y avait plus de renards, il n'y avait plus de rapaces. Et progressivement, j'ai dû vouloir réparer, je ne sais pas, je me suis mis à replanter des arbres, des petits arbres partout, partout, partout. Et puis je me suis mis à capturer des serpents et je les amenais dans les zones qui avaient été transformées en désert où il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que de la terre. Oui, je me souviens de ça. J'attrapais les serpents, des couleuvres, des vipères et puis je les amenais sur les terrains. Et bon,
pourquoi ?
Parce qu'il n'y en avait plus. La modification de la biodiversité, elle était considérable. Ah, les chemins creux faits de pierres sèches de 1 mètre, 2 mètres, en dessous du niveau des parcelles, sans la moindre maçonnerie, sans le moindre ciment, magnifique. Et il y avait une vie, il y avait des oiseaux, il y avait des rongeurs, il y avait des insectes. Là, après le passage des bulldozers, non, il n'y avait plus rien. C'était plat et c'était vide. Il y avait une grande étendue de plusieurs hectares, sans rien, bordée par des clôtures en fil de fer, en barbelé. Oui, je me souviens aller au bord des terrains fraîchement remembrés et rester immobile et silencieux, en apnée, parce qu'il n'y avait plus rien. Du haut de mes 10 ans, je le percevais vraiment comme un désastre. Je ressentais de la stupeur. Mon père ne le voyait pas du tout comme ça. Il avait le regard de l'exploitant. Et il pensait qu'il ne serait plus possible de vivre sur ces territoires comme il l'avait vécu lui. Il avait une formule qui était quand même assez riche en paradoxes. Il disait « Vous ne pourrez jamais être autant heureux que je l'ai été sur cette terre », alors qu'il était en train de la détruire. Je ne peux m'empêcher de penser que c'est une sorte de vengeance pour la souffrance qu'il a vécue sur ses parcelles, avec le gel, avec les rochers qu'il fallait déplacer et la souffrance physique. Et les machines agricoles lui ont permis de casser la gueule à la terre. Moi, je pense ça. Ceci dit, le travail était rude. Le topinambour, il mûrit avec l'effet du gel. Pour récolter le topinambour, il fallait donc commencer par écarter la neige, casser la glace avec ses doigts. On avait mal dans tout le corps. Alors, que le paysan ait voulu se venger de ça, c'est quelque chose que je conçois et qui ne m'étonnerait pas, avec l'apport de ce qui était présenté comme moderne, la machine-outil, la chimie. Mon père disait que ça allait améliorer la vie du paysan. Alors, si on revient là-dessus, améliorer la vie du paysan, et que je regarde aujourd'hui, 50 ans après, quelle est la vie du paysan, je me demande ce que ça a amélioré. Parce que mon village, mon tout petit village de 50 habitants, avec ses 7 familles de paysans, aujourd'hui, de paysans, il n'y en a plus que un seul, pas deux. Un seul. Donc je ne sais pas de la vie de qui ça a amélioré. Il n'y en a plus de paysans. Quand je reviens dans ce pays, je suis encore perçu et désigné comme le fils d'un des acteurs, membre de la commission de remembrement et favorable à cette modification. Et certains avec qui il est possible de parler font clairement allusion à des avantages que nous, notre famille, en aurait bénéficié, aujourd'hui encore. J'ai l'impression que mon père s'est fait manipuler par la préfecture, qui est allée chercher donc des paysans sur le terrain pour avoir des cautions et une légitimité. Et ça m'ennuie d'être le fils de quelqu'un qui a agi à l'encontre des siens, de la paysannerie. C'est certainement une des raisons, ce remembrement, qui m'ont amené à décider de quitter la région. Et j'y reviens très rarement, très rarement.
J'étais un pays humble et beau, j'étais une terre nourricière, j'étais un pays humble et beau, des percherons, j'étais le berceau. Ce n'était pas un pays facile, il fallait vouloir travailler, mais on était récompensé, et comme le cidre des altérés. C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent.
C'était Le Grand Remembrement, un reportage d'Inès Leroux réalisé par David Jacuboviez et mixé par Marie-Claire Oumabadi. Merci à Jacqueline Le Goff, Pierre Parvis, Yveline, Morgane Large, Valentin Lacambre et Alice Stenberg. Sachez par ailleurs qu'Inès Leroux, notre productrice, signe aussi une bande dessinée sur l'histoire du remembrement en France, à paraître en 2023 aux éditions La Revue Dessinée Delcourt. L'attachée de production des Pieds sur Terre, c'est Céline Paris et Flavie Champion, notre stagiaire.
C'est la faute au remembrement, si l'eau disparaît des fontaines, c'est la faute au remembrement, si plus rien n'arrête le vent.